Bonjour à tous, bienvenue sur Le Nouveau Chemin.
Monsieur de La Fontaine, je t'aime. Je lis tes fables, elles sont si belles. Quand je glisse ma main entre deux pages,
Les Nouveaux Chemins vous accompagnent du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour, à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. De la nature, le poème philosophique de Lucrèce, suite et fin. Aurait-on pu prédire que cette vision atomiste de la nature, cet éloge de la volupté bien comprise, cette apologie de la tranquillité de l'âme, ce lyrisme sombre et cette poésie épicurienne allaient connaître un tel destin? Darwin, Marx, Althusser, mais aussi Molière et Jean de La Fontaine, tant d'auteurs l'ont lu, tant de penseurs l'ont médité, si bien que le retour aux sources n'est pas un dépaysement, mais la découverte d'un univers familier. Pour évoquer aujourd'hui cette bienheureuse postérité de Lucrèce, j'ai le grand plaisir d'accueillir Patrick Dandrey, professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'Université Paris-Sorbonne. Patrick Dandrey, bonjour à vous.
Bonjour Adèle Dandrey.
Et si la Renaissance était née d'un livre? Un livre perdu, connu par fragments, recopié par quelques moines et retrouvé par un humaniste fou de manuscrits anciens. L'idée, audacieuse, vertigineuse, ouvre les portes de l'histoire de Poggio Bracciolini, dit le Podge, qui découvrit une copie du De Rerum Natura de Lucrèce dans un monastère allemand. C'était à l'aube du XVe siècle. Le Podge n'était pas seulement un bibliophile passionné et un copiste hors pair. Il aimait les arts et il avait écrit des facéties grivoises. Il aimait les femmes et était père de 19 enfants. Il n'aimait pas l'église, mais il était secrétaire d'un pape diaboliquement intelligent et corrompu. Ainsi s'ouvre à nous un monde inouï. Celui d'une cour papale où s'agitaient agents cupides, moines séducteurs, filous, femme de petite vertu et humaniste d'exception. Un monde à la fois sévère et dépravé, contraignant mais libre. En découvrant, copiant et diffusant l'œuvre de Lucrèce, le Podge aura levé le voile sur les temps modernes et influencé des esprits aussi puissants que Montaigne ou Machiavel. Car tout, selon Lucrèce, est fait d'atomes en mouvement qui s'entrechoquent au hasard, se séparent et se rencontrent à nouveau. Telle fut l'intuition géniale du poète latin, une célébration de la danse de la matière et un bréviaire d'athéisme qui allait bouleverser le Moyen-Âge finissant. C'est donc après des siècles d'oubli que le texte de Lucrèce fut redécouvert au début de la Renaissance, Patrick Dandrey, redécouvert de manière peut-être un peu différente. On a insisté au cours des émissions précédentes sur la dimension philosophique, c'est-à-dire les thèses épicuriennes qui étaient relatées au sein de ce texte. Peut-on dire que lorsque Lucrèce est redécouvert à la Renaissance, c'est un Lucrèce d'abord poète, littéraire, qui est lu?
Non, ce qu'on va lire, c'est un texte. Et par rapport aux 3 émissions qui viennent de se dérouler, ceux de vos auditeurs qui sont les plus fidèles vont avoir le sentiment qu'un vide s'est produit, un vide sidéral, c'est-à-dire celui dans lequel s'est engloutie l'Antiquité. Il faut bien comprendre que jusqu'à présent, nous avons perçu un Lucrèce dans son contexte. Vous savez, les antiquaires disent dans son jus. C'est-à-dire que la culture, l'épistémée, la conception du monde était celle de l'Antiquité. Et puis, il y a la chute de l'Empire romain et le grand changement, le grand chamboulement. Il y a Byzance, il y a les Arabes, il y a le monde chrétien. Et des textes survivent, d'autres pas, c'est un peu quitte ou double. Et une redécouverte qui va constituer une relecture. Alors oui, vous avez raison, on va reprendre Lucrèce de neuf. Et on va aboutir à une idée de Lucrèce qui vient jusqu'à nous, qui est une idée toute neuve. J'ai envie de dire que le Podge a réécrit Lucrèce. Enfin, j'exagère et j'en rajoute sur Greenblatt, qui s'est bien amusé d'ailleurs.
Greenblatt est l'auteur du texte que je viens de
lire. Ah oui, vous ne l'avez pas dit, effectivement, c'est lui qui a, un peu dans la foulée, disons-le, d'Umberto Eco et de Son nom de la rose, imaginé la rencontre entre le caractère romanesque du personnage du Podge, le caractère romanesque de la Renaissance perçue comme un ex nihilo, c'est pas tout à fait ça, il y avait des continuités tout de même, un surgissement, si vous voulez, d'une pensée nouvelle et fracassante, et puis peut-être aussi le caractère romanesque de cette découverte, de ce texte que le Podge découvre dans des circonstances étranges. Il accompagnait le pape Jean XXIII au concile de Constance, et déjà Jean XXIII, vous voyez, ça fait un peu étrange, puisque ce pape va être déposé, annihilé, et qu'il y aura un deuxième Jean XXIII au XXe siècle. Donc déjà, c'est un pape qui n'existe pas. Le Podge découvre ce manuscrit dans le monastère de Fulda, il en fait une copie qu'il envoie à son ami Niccolo Niccoli, qui lui-même s'en fait une copie. On perd la copie du Podge, on perd l'original de Fulda. On n'a plus que la copie de Niccoli, laquelle est gardée par le Niccoli en question, sous le coude, pendant 15 ans, et puis il le fait peu à peu paraître. Alors, bien sûr, il y avait de quoi faire un roman. Ce roman n'est pas tout à fait juste. Par exemple, on sait qu'un siècle plus tard, Turneb, un érudit français, découvrira dans un monastère près de Saint-Omer deux manuscrits du Nedator Rerum qui sont la source aussi de l'édition que nous en faisons. Mais la découverte du Podge, ça a été, si vous voulez, la réémergence de quelqu'un dont on savait simplement ce que Saint Jérôme en avait dit, d'après Eusèbe, au IVe siècle. Je vous lis ça parce que c'est intéressant pour voir ce qu'il reste d'un auteur latin lorsque la romanité s'est effondrée. Le poète Titus Lucretius, rendu fou par un filtre d'amour, rédigea dans ses moments de lucidité quelques livres que Cicéron corrigea par la suite. Il se donna la mort dans sa 44e année. C'est-à-dire un fou, un érotomane et un suicidé dont le grand Cicéron a rectifié les fulgurations démentes.
C'est à peu près les seules informations que nous avons sur Lucrèce d'ailleurs, hein, ce qu'en dit Saint Jérôme. Donc c'est difficile de pouvoir contredire ce qui est avancé là.
Oui, il est possible quand même que ce soit de la part d'un auteur chrétien une certaine intention, je ne veux pas prêter à Saint Jérôme des sentiments qui ne seraient pas saints, une certaine intention de dévaloriser un écrivain inquiétant.
Mais précisément, comment un auteur aussi, on dirait aujourd'hui, anti-dogmatique, anti-religieux que Lucrèce a-t-il pu autant parler à des intellectuels de la Renaissance qui étaient quand même, vous avez parlé de Jean XXIII, qui étaient quand même associés de près à la religion et qui étaient bien loin de pouvoir professer toute forme d'athéisme?
Alors, la thèse de Greenblatt, c'est que les moines qui recopiaient les textes ne savaient pas assez de latin pour les comprendre. C'est une première raison, si vous voulez. Ensuite, c'est l'idée de constitution d'une bibliothèque patrimoniale. C'est-à-dire qu'on garde tout, et comme de toute façon ils n'ont pas eu la révélation, ce n'est pas leur faute. Alors évidemment, on préfère des gens comme Virgile, qui ont été inspirés avant l'heure, et qui ont déjà annoncé la naissance du Christ sans s'en rendre compte, mais ceux qui, par accident, n'ont pas fait cela, on les prendra, je dirais, comme des adversaires sur lesquels frapper. C'est-à-dire qu'on va voir tout au long des siècles qui vont nous intéresser, les théologiens trouver en Lucrèce l'incarnation d'une pensée à laquelle il faut s'opposer. Puis il y a une deuxième chose intéressante qui est que Lucrèce étant poète, la dimension fabuleuse de son œuvre, fable au sens vraiment ancien de la mythologie, de l'invention, autorise cela. C'est assez amusant de voir que, enfin amusant, ce que je vais dire n'est pas amusant du tout, que lorsque Giordano Bruno, qui a repris les thèses de Lucrèce, a été brûlé vif, un peu plus tard, Charles Sorel dit de lui, c'est dommage qu'il n'ait pas présenté ses thèses comme des fables, comme l'a fait le poète Lucrèce, parce que dans ce cas-là, ce n'aurait été que des hypothèses. Le problème, c'est qu'il les a affirmées comme des vérités. Et je pense qu'il y avait une sorte de carapace de protection que les vers de Lucrèce opposaient à la pensée d'Épicure qui, lui, voyez-le, n'a pas survécu. C'est-à-dire que les textes d'Épicure, nous ne les avons que en lambeaux, et c'est pourquoi nous nous servons de Lucrèce pour comprendre Épicure de façon à le combattre. Enfin, je parle des gens du XVIIe et du XVIe siècle. Alors, c'est une situation très étrange que celle de Lucrèce, puisqu'il est pris entre son statut de poète, mais qui n'est pas tout à fait un poète puisqu'il pense. Je me mets dans la position des gens de ce temps. Et d'autre part, son statut de passeur, puisqu'on s'intéresse à lui, comme une sorte de filtre qui nous permet de comprendre la pensée d'Épicure. C'est une ambiguïté très fondamentale et qui nous met au cœur de la réception actuelle de Lucrèce, puisque la pensée la plus contemporaine, c'est comment essayer de concevoir que Lucrèce n'est pas un théoricien de la philosophie comme Épicure, c'est quelqu'un qui nous donne, par l'écriture poétique, un mode de pensée différent de celui de la théorisation. J'écoutais hier votre émission avec Jean Salem, beaucoup de nos auditeurs l'ont écouté, et ils ont vu le raffinement qu'il fallait opérer pour arriver à définir la notion de clinamen. Et à la fin, je vais vous avouer, j'ai pas trouvé ça infiniment clair, parce que ça ne l'est pas. Pourquoi ? Mais parce que c'est pas le but de Lucrèce de faire de la théorie, c'est pas Hegel, c'est Nietzsche et son Zarathoustra. Alors évidemment, les concepts, ils dansent. Et c'est le propre de la poésie de faire danser le concept. Alors, je ne dis pas qu'ils l'ont vu tout de suite, mais il y a eu une réception ambiguë qui est d'un côté la réception intellectuelle, c'est-à-dire qu'au XVIe siècle, Lucrèce a servi, je dirais, d'agitateur de neurones. Il a permis de remettre en question, de, vous voyez par exemple Montaigne qui a énormément...
Qui le cite énormément.
Qui le cite énormément. Ouais. Vous savez qu'on a l'exemplaire de Montaigne. On a son Lucrèce. C'est un Lucrèce qu'il a commencé à annoter en 1564 et en 1580 il y était encore. Et souvent il cite Lucrèce sans le nommer sous forme d'allusion. Et on voit que Montaigne se sert de Lucrèce et de ses réprobations de la religion dans le cadre des guerres de religion. Pour montrer comment... Même dans un univers chrétien, et Montaigne étant chrétien, on pouvait se défier de ce que la religion contient de fanatisme. Il y a donc là un usage qui est un usage de précaution, et je dirais de libération envers les dogmes et les fureurs fanatiques. Au XVIIe, ça sera différent. Ça sera
il faut rappelons-le, oui. Il faut attendre quand même 1659 pour que le texte soit traduit en français par Michel de Marolles.
Par Marolles, parce que je dirais que jusqu'au milieu du XVIIe, on le lisait en latin parce que tout le monde savait le latin comme presque une première langue. Regardez Montaigne qui a appris le latin quasiment avant le français, enfin si j'ose dire, et d'autre part parce que il n'était pas entre les mains de tous dans la mesure où il était un, suspect, et deux, compliqué. Voyez, et c'est pour cela qu'on va le tourner en français seulement à ce moment-là et qu'on aura, on a déjà eu les trois phases, si vous voulez, qui sont celles de la connaissance d'un poète ancien, de n'importe quel. Première phase, édition. Deuxième phase, citation. Troisième phase, traduction. On édite, on a fait de très belles éditions, un certain Lamblin a fait une édition, vous n'imaginez pas ce que c'est qu'une édition à cette époque-là. C'est une manière de vous mettre les textes en main avec des annotations, des gloses, des préfaces, des précautions, des explications, des interprétations, qui font que c'est comme une thèse, mais qui est répandue tout autour du livre. Ce sont des livres magnifiques d'ailleurs, parce qu'on voit toutes ces annotations dans des caractères plus petits ou avec des citations en grec qui viennent tout autour de Lucrèce. Donc ça c'est la première phase, puis après vous avez une phase... Presque en même temps de citations, Erasme cite beaucoup Lucrèce, d'Erasme à Montaigne, ce sont des gens qui font du Lucrèce en morceaux. C'est d'ailleurs une des façons dont on va connaître Lucrèce, beaucoup plus qu'en bloc. Vous voyez. On le connaît par petits éléments. Il devient alors à ce moment-là, chez les libertins du premier XVIIe siècle, libertins au sens philosophique du terme, un précurseur sulfureux, une espèce de porte-drapeau. Un érudit du début du XXe, Busson, disait « citer Lucrèce, c'est faire référence ». C'est déjà, si vous voulez, une manière de dire que. Et puis, au 18e, il va devenir alors plutôt un précurseur des déistes, qui vont se revendiquer de lui, même des athées éventuellement, avec D'Holbach. Et on verra alors le cardinal de Polignac rédiger un anti-Lucrèce en 10 000 vers, tout en latin, et Polignac l'intitule anti-Lucrèce, alors qu'en fait il lutte contre Spinoza et contre Newton. Il est cartésien. Mais pourquoi dit-il Lucrèce ? Ben parce que Lucrèce, c'est un nom qui est un signe de ralliement des libertins. Vous savez, cet anti-Lucrèce, j'en ai un exemplaire ici, ce qui prouve qu'il y en a eu beaucoup, puisque un professeur pas très riche peut s'offrir un exemplaire, vous voyez. Et Voltaire disait de lui, d'ailleurs je vous donne la citation, j'adore cette citation, « Bien moins poète que ce Romain, il fut aussi mauvais physicien que lui. Il ne fit qu'opposer erreur à erreur dans son ouvrage sec et décharné, qu'on loue beaucoup et qu'on ne peut lire. » De combien de livres peut-on dire ça ?
Édition, citation. Et traduction, vous avez dit.
Je reviens à votre traduction.
Arrivons tout de suite à ce troisième point. Écoutez.
Molière avait traduit presque tout Lucrèce. Et il aurait achevé ce travail sans un malheur qui arriva à son ouvrage. Un de ses domestiques, à qui il avait ordonné de mettre sa perruque sous le papier, prit un cahier de traduction pour faire des papillotes. Molière n'était pas heureux en domestique. Les siens étaient sujets aux étourderies, ou celle-ci doit être encore imputée à celui qui le chaussait à l'envers. Molière, qui était facile à s'indigner, fut si piqué de la destinée de son cahier de traduction que, dans la colère, il jeta sur le champ le reste au feu. À mesure qu'il y avait travaillé, il avait lu son ouvrage à M. Rohault, qui en avait été satisfait, comme il l'a témoigné à plusieurs personnes. Pour donner plus de goût à la traduction, Molière avait rendu en prose toutes les matières philosophiques et il avait mis en vers ses belles descriptions de Lucrèce.
J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire.
J'en suis ravi de même, et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandée sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée.
Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien.
Et je ne veux aussi pour grâce singulière que montrer à vos yeux mon âme tout entière. Et vous faire serment que les bruits que j'ai faits des visites qui s'y reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement.
Je le prends bien aussi et crois que mon salut vous donne ce souci.
Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle.
Oh, vous me serrez trop.
C'est par excès de zèle. De vous faire autre mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plus tôt...
Que fait là votre main?
Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse.
Ah, de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse.
Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu si bien faire.
Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi?
Il m'en a dit deux mots. Mais, madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits.
Le texte du Tartuffe, hein, ici un extrait de la scène 3 de l'acte 3, interprété par Thibaut de Montalembert dans Tartuffe et Patricia Jeannot-Elmire. C'était une adaptation radiophonique dans les Dramatiques de France Culture. Ce texte laisse entendre, Patrick Dandré, peut-être le début de la transition du libertinage philosophique au libertinage, disons, davantage érotique, l'importance de la matière, ne serait-ce que par le toucher, qui est ici fondamental dans cet échange entre le Tartuffe et Elmire. Également, pour quiconque connaît la pièce, la présence d'un début de scepticisme religieux, hein, de dénonciation d'un athéisme qui se déguise sous le masque, disons, au contraire du dévot. Et puis cette expression de ce que Tartuffe nomme le zèle, un désir, disons irrépressible, une forme de ce que Épicure nommera, par Lucrèce nommera une volupté. C'est bien que chez Molière, qu'il a lui-même traduit, Lucrèce semble prendre une nouvelle forme, elle-même littéraire. Il y a comme une nouvelle traduction de Lucrèce à travers les pièces de Molière.
Effectivement. Alors là, nous avons une réception de Lucrèce caractéristique du XVIIe, c'est-à-dire assimilée, appropriée, fusionnée avec d'autres et traitée, je dirais, dans le contemporain, dans l'immédiateté de... Ici, la dénonciation de la direction de conscience, de certaines formes d'hypocrisie et de pharisianisme, bref, la dérision de la superstition religieuse. Je dirais que Lucrèce convenait très bien à Molière par toutes sortes de thèmes qui lui sont propres. C'est la défiance, ce qui pouvait intéresser particulièrement Molière chez Lucrèce, c'est la défiance envers l'aveuglement des passions, qui prend... le tour mondain, ovidien, d'éléments comiques, délicats. Ici, la dérision de la superstition religieuse est enveloppée dans le miel de la parole casuistique, de la parole religieuse. Et ce n'est pas propre à Tartuffe. Agnès, épouvantée par les chaudières bouillantes de l'enfer, arguant le malade imaginaire, effrayé par les fulminations de son médecin, son beau-frère lui dit, est-ce un oracle qui a parlé ? Et en passant par Sganarelle qui se ferait pendre pour le moine bourru, on voit bien qu'il y a là une globalité d'attaques contre la religion qui donne un certain poids à la légende, à l'assertion selon laquelle Molière aurait traduit Lucrèce. On n'en est pas sûr, vous savez.
Bah, c'était un extrait du texte de Grimaret, hein, dans la vie de Monsieur Molière, qui racontait cet épisode, qui dit que Molière aurait brûlé sa traduction. Alors, parce qu'un de ses serviteurs aurait perdu.
On voit très bien comment s'opère le mélange entre la réalité et la légende. Nous avons des témoignages concordants de son vivant entre 1659 et 64, et posthume, donc, comme celui de Grimaret, assorti de cette légende des papillotes
Un domestique aurait pris le manuscrit traduit de Lucrèce pour faire des papillotes.
Trallage, en fait, nous apprend que le manuscrit existait toujours, hein, c'est faux, et que Trallage est un érudit de l'époque, et que les éditeurs de Molière, l'éditeur posthume, en 1682, ont voulu éditer cette traduction. Elle existait peut-être encore, mais que le libraire ne le voulut pas. Cela était trop fort contre l'immortalité de l'âme, à ce qu'il dit. Ce n'est pas rien, vous voyez. Et d'ailleurs, il faudrait à ce propos raconter. On peut faire une petite insertion sur une légende au 19e siècle.
Lucrèce étant l'auteur du Clinamen et de la déviation de l'atome de sa trajectoire, je vous en prie, les digressions sont autorisées.
Des mystificateurs ont fait croire aux grands moliéristes, à des grands érudits, qu'on avait retrouvé la traduction de Molière à Bordeaux. Alors ils l'ont attendu, il n'est jamais arrivé. Et puis, ils ont même envoyé des vers qu'ils auraient extraits de ce manuscrit. Et en réalité, ces vers, on les retrouve dans la préface des Empires du Soleil de Cyrano, ce qui est un bon moyen de nous amener vers le milieu libertin du XVIIe, auquel Molière n'était pas indifférent. Et on trouve ces mêmes vers de la préface de Cyrano dans La vie de Lucrèce, qui est en tête de la traduction que vous évoquiez tout à l'heure, celle de Marolles, en 1650. Il y a là un faisceau d'éléments qui a été d'ailleurs mis en lumière par le colloque organisé Michel Rossellini et Philippe Chometti sur la traduction de Lucrèce, que je veux citer parce que ça m'a beaucoup servi pour préparer cette émission. Or, le texte de Cyrano présente des vers irréguliers. Vous avez entendu, on dit que Molière a traduit moitié en vers, moitié en prose, mais on sait aussi que ces vers étaient irréguliers. Et il y a peut-être une chance que les quelques vers cités par Marolles aient été en réalité de Molière, puisque lui, Marolles, il traduisait en prose. Alors, je vais vous lire, si vous le permettez, 8 vers qui sont peut-être la traduction de Lucrèce par Molière. Vers irréguliers, c'est le livre 5, vers 495-502 de Lucrèce. Les corps furent pressés et s'acquirent leur poids. La terre, cet amas des excréments du monde, demeura fixe et sembla faire choix dans le fond du chaos d'une figure ronde. Dès lors, les champs de l'air se virent transparents. La mer s'émut, son cristal fut liquide, et du ciel étoilé la matière fluide nous laissa voir ces beaux astres errants. Voilà, c'est peut-être du Molière, nous n'en saurons jamais rien. Mais c'est possible. Alors, à partir de là, évidemment, comment revenir à Tartuffe ? Eh bien, je dirais que les thèmes que l'on trouve ici sont des thèmes de physique, évidemment. C'est tout à fait autre chose. C'est une inspiration de poète. Mais il n'est pas dit qu'il n'y ait pas, chez Molière, dans l'importance attachée à la notion de nature, et qui vient de Montaigne, Montaigne, grand lecteur aussi de Lucrèce, quelque chose qui rappelle, par exemple dans l'anti-cartésianisme des femmes savantes, la pensée de Gassendi, qui a été le grand fédérateur de Molière.
Épicurien du siècle. Hein.
Le grand épicurien du XVIIe, et qui a eu l'avantage, si vous voulez, de fusionner la pensée d'Épicure et de Lucrèce en l'accommodant avec le christianisme, avec deux subterfuges que je vous cite parce qu'ils sont drôles. L'un, c'est de dire « les atomes sont là de toute éternité, mais c'est parce que Dieu les a inventés ». Ça ne mange pas de pain, si j'ose dire. Et puis, la seconde, ça a été de dire que c'est vrai, les âmes sont matérielles, ce sont les quatre âmes qu'évoquait Élisabeth de Fontenay avant-hier, l'animus, l'anima, la mens et la quatrième substance. Mais ça n'empêche pas Dieu d'avoir mis dans la quatrième substance l'âme immortelle. C'est un petit surplus, si vous voulez. Et à partir de là, on est tranquille et on peut développer un système épicurien, si vous voulez, qui s'oppose évidemment et au cartésianisme et à l'aristotélisme pour créer une troisième voie dont il n'est pas dit qu'effectivement Molière ne se soit pas inspiré. On trouve chez Molière notamment un hédonisme plus ou moins sensualiste qui n'est pas épicurien mais qui se rencontre avec Lucrèce sur le refus, je dirais, d'une éthique de la souffrance. c'est-à-dire ce qui est une des bases quand même du christianisme, qui n'est pas qu'une religion d'amour, qui est aussi une religion de l'éthique de la souffrance rédemptrice et éducative. Ça, si vous voulez, ce n'est pas véritablement dans l'esprit de Molière, et je dirais même que c'est le contraire. La dénonciation, par exemple, de la crainte de la mort est caractéristique de l'œuvre de Molière. Il y a un personnage, M. Filérin, dans L'amour médecin, qui est contemporain de la querelle de Tartuffe, qui dit « Le plus grand faible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont pour la vie ». Et nous en profitons, nous autres, il est médecin, par notre pompeux galimatia, et savons prendre nos avantages de cette vénération que la peur de mourir leur donne pour notre métier. Vous voyez, cette prévention à l'égard de la peur de la mort.
Un autre thème lucrécien que Molière reprend à son compte, c'est celui de la passion amoureuse, à la fois une invitation à un rapport qu'on dirait aujourd'hui déculpabilisé à cette passion, et d'un autre côté, la mise en garde des tourments que cette passion induit, qui rend forcément l'âme malheureuse. Je vous propose d'écouter à la suite, et c'est assez troublant, un texte de Lucrèce qui parle justement de cette passion, la façon dont la passion amoureuse va transformer une femme laide en femme magnifique, et un extrait du Misanthrope, qui semble être une traduction, là pour le coup, mot pour mot, qui exprime exactement la même idée. Écoutez.
Il est plus facile d'éviter de tomber dans les filets de l'amour que de s'en dégager une fois pris et de rompre les raies où Vénus enserre solidement sa proie. Et pourtant, même engagé et embarrassé dans le piège, pourrait-on échapper à l'ennemi si l'on ne se faisait obstacle à soi-même en fermant les yeux sur toutes les tares morales ou physiques de celles que l'on désire et que l'on veut? C'est le défaut le plus fréquent chez tous les hommes aveuglés par la passion d'attribuer à celles qu'ils aiment des mérites qu'elles n'ont pas. Aussi voyons-nous des femmes laides et repoussantes de tout point être adorées et traitées avec les plus grands honneurs. Et pourtant les amoureux se rient les uns des autres et se conseillent réciproquement d'apaiser Vénus pour qu'elle éteigne l'amour honteux dont ils sont affligés. Une peau noire à la couleur de miel, une femme malpropre et puante est une beauté négligée. A-t-elle les yeux verts, c'est une autre Pallas. Est-elle toute de cordes et de bois, c'est une gazelle. Une naine, une sorte de pygmée, est l'une des grâces, un pur grain de sel. Une géante colossale est une merveille pleine de majesté. Un nez Camus, c'est une silène, une satyre. Une lipue devient un nid de baisers. Mais je serais trop long si je voulais tout dire.
Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. Et je bannirai, moi, tous ces lâches amants que je verrai soumis à tous mes sentiments, et dont à tout propos les molles complaisances donneraient de l'encens à mes extravagances.
Enfin, s'il faut qu'à vous s'en rapportent les cœurs, on doit pour bien aimer renoncer aux douceurs, et du parfait amour mettre l'honneur suprême à bien injurier les personnes qu'on aime.
L'amour, pour l'ordinaire, est peu fait à ses lois, et l'on voit les amants vanter toujours leur choix. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable, et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. Ils comptent les défauts pour des perfections et savent y donner de favorables noms. La pâle est aux jasmins en blancheur comparable. La noire à faire peur une brune adorable. La maigre a de la taille et de la liberté. La grasse est dans son port pleine de majesté. La malpropre sur soi, de peu d'attrait chargé, est mise sous le nom de beauté négligée. La géante paraît une déesse aux yeux, la naine un abrégé des merveilles des cieux. L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne, la fourbe a de l'esprit, la sotte est toute bonne. La trop grande parleuse est d'agréable humeur, et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime.
Moi, je connais un ami, il s'appelle Alceste. C'est son nom, Alceste. Nous, on l'appelle Zanthrope, c'est notre ami Zanthrope. Bonjour, la Misanthrope. Quand il est à Saint-Trope, il vit comme un ascète. Il sort jamais là-bas, mais quand il est à Saint, il vit comme à Saint-Trope. Toute la nuit il sort, il fait le tour des boîtes où l'on boite et l'on danse. Il y en a plusieurs à cette, il cherche Célimène, sa doudou fiancée. A vu Célimène, pas là, à la fin, il a tout, il lui dit ce qu'il pense. n'est pas content, tu sais. Il dit fuyons ces boîtes de lait condensé. Ah, parce que c'est son mot, ça. Parce que lui, il dit que ceux qui dansent dans ces boîtes, ils sont affreux. Et quand il s'arrête de danser, il dit c'est des boîtes de lait condensé. Et voilà, et ça fait rigoler. Oh, oh, oh là là, oh, oh, bon bateau. Mais lui, il est en colère et il dit en graissant des Molières.
Non, je ne puis souffrir. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h30 et c'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée au poète-philosophe Lucrèce, qui dans son poème intitulé « De la nature » a remis au bout du jour les thèses épicuriennes. La postérité de Lucrèce est infinie sans doute, en tout cas on en commente aujourd'hui quelques textes chez La Fontaine et chez Molière en compagnie de Patrick Dandré, qui est professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'université Paris-Sorbonne.
Avec les mains, c'est rien que du chiquet de la cour de Biquet. Ah, ça c'est son mot, ça encore. Parce que lui, il passe pour l'amour, pas besoin de faire des manières. Lui, tout de suite, allez, boum boum. Et voilà, c'est pas compliqué. Mais Célimène, c'est pas ça du tout. Elle veut pas tout de suite, boum boum, parce qu'il est une grande coquette. Et puis d'ailleurs, tu vas voir. Mais notre Célimène dit pas toujours amen, non. Oh non, au contraire, bien souvent, elle le dit amen, non. C'est vrai ça, moi j'aime conversation de garçon plus amène, oui. Amène signifie doux, puis je suis pas sans dire, je rentre pas à minuit. Si tu crois qu'en amour y'a pas besoin de haute œuvre, va t'en chercher ailleurs qui peut faire ton bonheur. Pour gagner une guerre, il faut faire des manœuvres. Mets du miel sur ton piège pour attaper mon cœur.
Alors Patrick Dandré, je ne sais pas si Bobby Lapointe était un lecteur de Lucrèce, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque Molière a écrit Le Misanthrope, il avait sans doute sous les yeux le texte de Lucrèce, parce que là, pour le coup, les échos sont plus que troublants.
C'est peut-être un extrait de sa traduction, la fameuse traduction.
Voilà.
C'est de l'art de rendre Lucrèce drôle, ce qui n'est pas si facile qu'on pourrait le penser. Il faut dire que ça s'accordait bien, cette scène, avec les thèmes de Molière. C'est le thème de la défiance envers l'aveuglement des passions, qui prend ici un tour mondain, un tour un peu ovidien. Vous savez qu'on aimait plus Ovide et Virgile que Lucrèce au XVIIe siècle. Lucrèce, il partageait un peu le destin d'Homère, admirable, sublime, mais de temps en temps un peu rêche, rugueux et difficile. Ovide était plus souple, plus charmant. Et donc il y a là l'occasion, que dans la tirade que nous avons entendue d'Eliante, d'une insertion allusive sur l'erreur et sur l'aveuglement des amants. Il y a peut-être aussi, on n'en sait rien, un signal libertin. Vous savez que c'était une des thèse que l'on a eue sur le Don Juan, de dire que la pièce était un grimoire. Les libertins avaient coutume de publier des choses à moitié scellées, à moitié chiffrées, à moitié cachées, et qu'il y avait peut-être une espèce d'écriture secrète, une allusion, et que les gens entendant cet extrait de Lucrèce se disaient « Tiens, une signature libertine ». J'étais peu nombreux à le savoir, mais c'est possible que ce soit aussi une allusion de ce type. Mais l'essentiel, c'est évidemment un Lucrèce mis au goût du monde, mis au goût mondain, au goût des honnêtes gens, par contamination de ses thèmes et de son tour avec d'autres poètes, comme Ovide. Et puis je dirais aussi, par le retour à un extrait. Vous savez, Lucrèce, je le disais, était connu par extrait. On s'est amusé à essayer de voir quels étaient les extraits les plus souvent pastichés, les plus souvent repris, les plus souvent imités par les poètes qui lui ont succédé. Il y a deux extraits qui sont les plus fréquents. Il y a le « Suave Marie Magno ». Vous savez, il est agréable du haut d'un promontoire de voir la mer quand on est à l'abri, qui d'ailleurs donne naissance à des vers qui ont été chantés dans le feuilleton de l'Ulysse, qui signifie que Bobby Lapointe n'est pas le premier à avoir chanté du Lucrèce ou du Misanthrope. Je vous donne les deux vers de « Suave Marie Magno ».
On en a parlé, je crois, c'était mardi dernier. C'est le début du chant 3,
oui,
c'est
oui,
ça
oui, oui, oui. « Heureux qui peut voir du rivage le terrible océan par les vents agités ». Voilà, c'est du Lully. Et puis, il y a un second aspect, si vous voulez, qui est un second thème qui est très fréquent, qu'on retrouve assez fréquemment depuis Dubellé, qui le traduit. C'est l'hymne à Vénus qui ouvre le texte et qui, d'ailleurs, a été également repris, mais sous une forme transformée, sous une forme appropriée par le grand La Fontaine.
Dont voici un extrait, et vous verrez cette fois-ci que la référence à Lucrèce est souvent bien plus explicite que chez Molière, même si les affinités intellectuelles entre La Fontaine et Lucrèce semblent plus difficiles à cerner que celles entre Molière et Lucrèce. Écoutons tout de suite un extrait des Amours de Psyché et de Cupidon.
Ô douce volupté, sans qui dès notre enfance le vivre et le mourir nous deviendraient égaux, aimante universelle de tous les animaux que tu sais attirer avec violence. Par toi tout se meut ici-bas. C'est pour toi, c'est pour tes appâts que nous courons après la peine. Il n'est soldat, ni capitaine, ni ministre d'État, ni prince, ni sujet qui ne t'ait pour unique objet. Nous autres nourrissons, si pour fruit de nos veilles un bruit délicieux ne charmait nos oreilles, si nous ne nous sentions chatouillés de ce son, ferions-nous un mot de chanson. Ce qu'on appelle gloire en termes magnifiques, ce qui servait de prix dans les Jeux Olympiques n'est que toi proprement, divine volupté. Et le plaisir des sens n'est-il de rien compter? Pourquoi sont faits les dons de flore, le soleil couchant et l'aurore, Pomone et ses mets délicats, Bacchus, l'âme des bons repas, les forêts, les eaux, les prairies, mer des douces rêveries? Pourquoi tant de beaux arts qui tous sont tes enfants? Mais pourquoi les chloris aux appâts triomphants que pour maintenir ton commerce? J'entends innocemment sur son propre désir quelque rigueur que l'on exerce, encore y prend-on du plaisir. Volupté, volupté qui fut jadis maîtresse du plus bel esprit de la Grèce, ne me dédaigne pas, viens t'en loger chez moi, tu n'y seras pas sans emploi.
Les amours de Psyché de Cupidon ne sont peut-être pas un des textes les plus connus de La Fontaine, et pourtant, quand on le lit de près, on y retrouve non seulement des thèmes qui sont présents dans toutes les œuvres de La Fontaine, mais aussi donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui, une influence assez directe de Lucrèce. Patrick Dandré, quels étaient les rapports entre La Fontaine et Lucrèce?
Alors, ces rapports sont des rapports d'assimilation, d'adaptation, parfois de revendication. En tête d'un poème consacré à un drôle de sujet, qui est le quinquina, c'est-à-dire une racine qui avait pour principe de faire baisser les fièvres, La Fontaine se dit disciple de Lucrèce pour la seconde fois. Il l'a été une première fois dans une fable qui s'appelle Le discours à Madame de la Sablière. Enfin, c'est pas tout à fait une fable, c'est un discours inséré dans les fables et qui présente à la fin du livre 9 l'âme des animaux dans la théorie de Gassendi contre Descartes, donc qui remonte par là à Lucrèce. C'est de la poésie scientifique et en même temps de la poésie de circonstance, parce que le quinquina était à la mode et que dans le salon où La Fontaine était reçue et protégée, celui même de la Sablière, le docteur Mongineau avait fait paraître un traité de la guérison des fièvres par le quinquina. Alors ça, si vous voulez, c'est l'aspect poésie de circonstance, vous voyez. Mais il y a un second aspect quand même, c'est la théorie globale, le monde des animaux. Puis il y a un troisième aspect, c'est l'influence hédoniste, si vous voulez. Alors, l'hymne à Vénus, qui est ici imité, disons-le, par La Fontaine, transposé bien sûr, comme traduction infidèle, c'était un morceau de bravoure de l'adaptation de Lucrèce depuis le XVIe siècle, depuis qu'une version illustre en avait été donnée par Joachim du Bellay. La dimension épicurienne de ce texte est indéniable, de ce texte de La Fontaine. Il y a d'une part le plaisir reconnu comme principe du monde, comme facteur d'unité et d'action, unificateur des formes multiples de la jouissance, quand il dit qu'il aime tout, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique qui forme une chaîne de volupté. Le mot volupté est tiré de Lucrèce, et c'est un mot rare au XVIIe. Le fait d'avoir repris voluptas, c'est quand même un indice, si vous voulez. Un indice, évidemment, contourné. Il y a aussi un effet, nous dirions, métatextuel, parce que dans cet hymne, Lucrèce, placé en tête de son livre, Lucrèce place son poème sous le signe de Vénus et son succès sous l'empire de Vénus. Et dans cet hymne à volupté qu'il met à la fin de ses amours de Psyché et de Cupidon, La Fontaine rapporte à la volupté de la gloire littéraire son hymne conclusif. Il y a donc bien ces deux éléments, mais... Et c'est là la différence, et c'est là que nous voyons ce qu'est une adaptation poétique. Les plaisirs que La Fontaine présente sont des plaisirs privés. C'est plaisir à lui, c'est du moi. L'universalité est ramenée à l'unité de l'individu dans son privé. Et ensuite, l'hédonisme sensuel et sociable qu'il présente est assez éloigné d'un certain pessimisme de Lucrèce envers la vie, source de douleur, envers son athéisme militant également, qui n'est pas du tout partagé par La Fontaine,
loin s'en faut. Oui.
Évidemment. Et puis une certaine austérité morale. Vous savez qu'on a beaucoup reçu Lucrèce pour cette question-là. Mais ce qui reste, et à mon avis, ce qui fait le lien, si vous voulez, ce qui fait qu'il va y avoir une véritable imprégnation de Lucrèce, c'est qu'ils sont tous les deux poètes et qu'il y a dans le texte de La Fontaine une émotion sensible, une vibration que l'on trouve dans bien d'autres textes, y compris les fables, au plaisir et à la peine, avec cette universalité du désir qui fait que l'on trouve de la délectation même dans la mélancolie. Il y a là comme un élan de la jouissance, si vous voulez, et qui crée, je dirais, une famille d'esprit. Si vous voulez, si j'avais à rapprocher ce texte de La Fontaine et ce qu'a été Lucrèce dans la suite de notre littérature, je penserais à ce poème que, paradoxalement, Hugo met sous le signe de Virgile, qui est Mugitus Quebuum. Est-ce que je peux vous en dire simplement quelques vers?
Vous
allez entendre du Lucrèce à la sauce romantique. Mugissement des bœufs au temps du doux Virgile, comme aujourd'hui le soir, quand fuit la nue agile. Ou le matin, quand l'aube aux champs extasiés verse à flots la rosée et le jour, vous disiez mûrissez, blé mouvant, prise, emplissez-vous d'herbe, que la terre, agitant son panache de gerbe, chante dans l'onde d'or d'une riche moisson, vie bête, vie caillou, vie homme, vie buisson. Ça, c'est du Lucrèce.
Que vous venez de citer par cœur.
C'est pas du Virgile. L'idée de faire vivre le caillou autant que l'homme et le buisson et l'animal, vous voyez bien, c'est les quatre règnes. Et c'est cette idée d'un flux de vie, tout est plein d'âme, qui fait que ce Hugo-là chante la terre comme le fera Mahler. C'est le chant de la terre. Rappelez-vous ce début du chant de la terre, oh Mensch. Enfin, je vais pas vous le chanter. Hein. Et ça annonce également...
Pour en fin d'émission, on verra.
Un grand ennemi de Hugo qui était Claudel. Si vous pensez à Tête d'or, aux cinq grandes odes, l'esprit et l'eau, vous savez, après le long silence fumant, après le long silence tout plein de fumée, et cette terre tendre feuillante et bien chauffante, d'où va sortir l'ode, d'où va sortir la poésie. Vous avez là un athée, Lucrèce, vous avez un animiste, ou presque, Hugo, vous avez un catholique, enfin il le croyait, Claudel, et on pourrait presque ajouter un matérialiste, car si on pense à Saint-Jean-Perse et à Amer, et vous, mère, qui lisiez dans de plus vastes songes, nous laisserez-vous ce soir au rostre de la ville parmi la pierre publique et les pampres de bronze, plus large aux foules notre audience sur ce versant d'un âge sans déclin, la mer, immense et verte comme une aube à l'orient des hommes, la mer en fait sur ses marches comme une ode de pierre. C'est le même rapport entre le flux de la poésie, l'ode qui est une ode de pierre et une ode de mots, et que l'on trouve à travers ces quatre ou cinq poètes qui sont tous différents et qui sont tous pour moi dans la lignée de Lucrèce. Voilà peut-être la vraie réception de Lucrèce et qui m'intéresse beaucoup plus que la pluie des atomes dont je vous avouerai, Adèle, puisque c'est la fin de l'émission, ou presque, que je la trouve ennuyeuse comme toute pluie.
Alors là, je suis pas d'accord avec vous, parce que pour le coup, le défi que propose le Clinamen, savoir comment Lucrèce explique l'avènement de la liberté, est absolument passionnant. Mais si
vous
on reste un instant sur la côté, chacun ses défauts. Si on reste un instant encore, il nous reste quelques minutes sur la question de la postérité dont vous venez de dresser un portrait fabuleux. Quel est finalement, comment nommer ce que tous ces auteurs ont en commun et qui trouvent chez Lucrèce des auteurs aussi différents,
je vais vous dire.
Et c'est une forme de vitalisme poétique.
Non, c'est l'art de penser par l'imagination. Ça, c'est une leçon d'Épicure.
L'art de penser par l'imagination. Les deux termes sont importants.
C'est l'image qui pense. C'est-à-dire que c'est le concept qui danse. C'est-à-dire que nous n'avons pas une cohérence des concepts. On va pas arriver à la trouver. On va pas comprendre le système d'Épicure en lisant Lucrèce. Mais on va le sentir. Et on va le sentir à travers une puissance visionnaire qui fait que ces gens-là, quand ils voient le matin et son aube extasiée, quand ils voient le soir et sa nue agile, ils ont quelque chose en eux qui vibre et qui nous met en accord avec les vibrations de la terre. C'est tellurique, cette poésie. Et cette poésie tellurique, elle peut être aussi bien dans le raffinement délicat de La Fontaine, vibrant de tous les atomes de son corps à l'évocation de la volupté, que dans le grand souffle de Claudel ou de Saint-Jean-Perse, cosmique. Il y a, si vous voulez, l'art de nous mettre, nous le lecteur, par la vertu de l'image et par la puissance de l'imaginaire, en connexion immédiate avec le chant des atomes et avec une pluie qui devient un orage. Et c'est quand la pluie atomique devient orageuse qu'elle est, je crois, passionnante et compréhensible, d'une manière qu'il est très difficile de conceptualiser, mais que l'on peut ressentir. Et c'est ça que Lucrèce fait par rapport à Épicure, et c'est tout le porte-à-faux de ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on a lu Épicure à travers Lucrèce, alors qu'on aurait dû faire le contraire. Épicure, on le connaît très peu, tant pis, mais Lucrèce nous met en fusion et en osmose avec ce que dut être non pas la pensée, mais l'intuition d'Épicure. Vous savez ce que disait Bergson ? On a une intuition intuition dans sa vie, on passe toute sa vie à faire de la philosophie pour essayer d'en tirer les conséquences. Et ben c'est cela, les poètes, ils nous mettent à ras d'intuition.
Comme si finalement Lucrèce avait trouvé chez Épicure, bien plus que les fondements théoriques de son propre geste, mais une matière, c'est le cas de le dire, qu'il pouvait modeler pour donner à son élan poétique une substance qui dépassait la simple écriture.
Exactement, je dirais que Lucrèce a fait sur Épicure un effet de clinamen.
Oh, la troublante volupté de la première. Rétrata, qu'on risque avec timidité et presque avec contrainte. Le contact vous fait frissonner aussitôt qu'on se frotte. Contre l'épaule, la main qui cherche à se poser rompt en vagues caresses et l'on se sent tout de grisé par une même ivresse. Oui, l'on se sent tout de grisé par une même ivresse. La troublante volupté de la première étreinte.
La troublante volupté de la première étreinte, c'est Mathé Altery qui la chante. Un grand merci à vous, Patrick Dantré, d'être venu enflammer ce micro en rendant hommage à Lucrèce.
Merci.
C'était un plaisir de vous écouter en parler, comme toujours d'ailleurs, comme à chaque fois que vous venez. Je renvoie les auditeurs à notamment deux de vos ouvrages, il y en a d'autres, hein, Molière et l'esthétique ou l'esthétique du ridicule chez Klinksyl, puisqu'il a été question de Molière, et aussi sur La Fontaine, La fabrique des fables, toujours aux éditions Klinksyl.
Contre l'épaule, la terre vient s'abandonner, lasse contre l'épaule.
Que cette série d'émissions soit l'occasion pour vous, chers auditeurs, de découvrir ce texte fabuleux qu'est De la nature de Lucrèce. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et les 10h48. Encore 2 minutes, papillon, c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Le livre dont vous parlez aujourd'hui, Denis Toire, nous l'avons déjà reçu sur les nouveaux chemins pour parler d'Hegel, mais cette fois-ci c'est un autre sujet.
Oui, c'est un autre sujet, un petit peu en accord avec ce dont vous venez de parler, c'est... Il est question de poésie, c'est le Célan des philosophes, c'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil.
Todesfuge, schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts.
Lait noir de l'aube, nous le buvons le soir, le buvons à midi et le matin, nous le buvons la nuit, nous buvons et buvons. Nous creusons dans le ciel une tombe où l'on n'est pas serré. Un homme habite la maison, il joue avec les serpents, il écrit. Il écrit quand il va faire noir en Allemagne, Margarete, tes cheveux d'or.
Ce poème que l'on vient d'entendre, c'est Fugue de mort, d'abord lu par son propre auteur, Paul Celan, et interprété ensuite par le comédien Nicolas Bouchaud. C'est le poème le plus connu de Paul Celan, celui où apparaît de manière frappante le choix de la langue allemande, complice de l'extermination pour un poète juif. Ce choix d'écrire en allemand et contre l'allemand dans le même temps a fasciné plus d'un philosophe, Derrida, Gadamer, Ancière, entre autres, et qui remonte même à une rencontre entre Heidegger et Celan le 25 juillet 1967. Cependant, dans un recueil de textes qui paraît aujourd'hui même, Denis Toire renouvelle la question « Pourquoi ce poète ?» Ou plus précisément, que dit cet engouement des philosophes pour la langue de Celan, des rapports entre la philosophie et la poésie ? Car là est bien le véritable enjeu, se demander comment la philosophie a recours à la poésie. Eh bien, le problème, justement, déjà, c'est de parler de la poésie, là où il n'y a que des poètes et des poèmes. Le problème, dit d'emblée Denis Thoire, c'est d'absolutiser le langage poétique, soit comme langage essentiel qui se serait dégradé en communication, soit comme lieu premier et indépassable d'appartenance culturelle. En fait, la tentation poétique, c'est d'en faire l'issue de toutes les apories, des troisièmes parties de toutes les dissertations, de faire donc parler sa langue autrement. On retrouve là, évidemment, la critique classique adressée à la philosophie face aux arts, celle de les surplomber et d'en tirer des leçons. Revenir au poème, aux formes du poème, aux mots choisis pour que s'en dégage une interprétation philosophique, là serait la solution, à condition aussi de ne plus dire la philosophie comme on ne dira plus la poésie.
Vive les deux, philosophie et poésie, l'émission du jour le montre très bien. Merci Géraldine.
Vive les philosophes et les poètes, donc c'est Pourquoi ce poète, le Célan des philosophes, c'est Denis Thoire et c'est aux éditions du Seuil.
Merci Géraldine, merci à tous, merci Patrick André. L'émission touche à sa fin, ainsi que cette semaine consacrée à Lucrèce. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour l'émission du vendredi consacrée à l'actualité philosophique. Eh bien, je recevrai la philosophe Myriam Korichi qui fait paraître chez Albin Michel un traité des bons sentiments. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les comptes de l'émission Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. Un grand merci à Ariane Mintz pour la préparation de cette émission ainsi qu'au reste de l'équipe des Nouveaux Chemins, Pierre Brossard, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Nicolas Berger, Olivier Bétard. Élise-le à la prise de son aujourd'hui.